Every day. Anywhere. Anytime. The Digital Gasbook Channel. Ebenezer International. Your station.
Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis bonjour et bienvenue à l'émission Logos Pod. Chers amis à l'écoute, je vous dis bonjour et vous remercie en même temps de faire vôtre cette radio dont l'objectif principal est de vous pourvoir de bonne nourriture spirituelle. C'est Franck Doristil, votre ami podcasteur qui vous parle depuis la France métropolitaine dans le Val d'Oise et qui est de retour avec ce nouveau numéro de Logos Pod. Et si vous nous écoutez pour la première fois, sachez bien que cette rubrique a été conçue pour vous permettre de partager quelques-uns des messages que nous avons préparés ou prêchés dans certaines églises, ou du moins un message prêché par un autre pasteur ou un prédicateur quelconque et qui nous donne l'autorisation d'utiliser son texte dans le cadre de ce programme. Le message du jour a pour titre « Le modèle des Bériens ». Et le texte de base se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 1 à 15. Cette émission est une courtoisie du pasteur Henri Opéroal, pasteur de l'Église évangélique protestante de Lyon-Ouest, qui nous accorde son autorisation pour utiliser ce texte trouvé sur le site de cette église. Dear friends and listeners, thanks for joining us today at the Digital Gospel Journal, the Radio Ebenezer International. I'm Frank Doistil, your friend podcaster, and I will be your host as you listen to Christian podcast designed to feed your spirit. I pray you will be encouraged and that you will grow in your faith in Jesus Christ, our Savior. Vous écoutez la radio chrétienne Ebenezer International à l'heure de Logos Pod. Avant la méditation du jour, nous vous proposons ce chant de l'artiste Daniel Piala, fondé sur le rock. Bonne écoute à toutes et à tous.
C'est l'histoire de deux maisons, admirable construction. La première aimait la mer, sur le sable elle s'était posée. Entre un peu plus loin en arrière, avait préféré s'installer. J'ai tant reçu de coups, de coups, de coups. Si je m'appuie sur le sable humide, je sais très bien que je cours à la ruine. Il n'y a qu'un lieu où je tiendrai le coup, le coup, le coup. Fondé sur le roc. Quand les nuages s'amoncellent, que le ciel commence à facile, j'ai tant reçu de coups, de coups, de coups. Si je m'appuie sur le sable humide, je sais très bien que je cours à la ruine. Il n'y a qu'un lieu où je tiendrai le coup, le coup, le coup.
Fondé sur le roc.
Je vous invite de lire avec nous ce texte que nous trouvons dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, les versets 1 à 15. Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollinie. Et ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Paul y entra, selon sa coutume. Pendant trois sabbats, il discuta avec eux d'après les Écritures, expliquant et établissant que le Christ devait souffrir et ressusciter des morts. Et Jésus, que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu, et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason, et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Ne les ayant pas trouvés, ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville, en criant « Ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. Ils agissent tous contre les édits de César, disant qu'il y a un autre roi, Jésus. » Par ces paroles, ils émurent la foule et les magistrats, qui ne laissèrent aller Jason et les autres qu'après avoir obtenu d'eux une caution. Aussitôt, les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique surent que Paul annonçait aussi à Bérée la parole de Dieu, ils vinrent y agiter la foule. Alors, les frères firent aussitôt partir Paul du côté de la mer. Silas et Timothée restèrent à Bérée. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes. Puis, ils s'en retournèrent, chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de le rejoindre au plus tôt. Parole du Seigneur, trouvée dans Actes des Apôtres, au chapitre 17, les versets 1 à 15. Amis à l'écoute, avez-vous déjà remarqué, pendant un congrès, une réunion importante, ou même au dos d'un livre, l'accent qui est mis sur le palmarès d'une personne? On passe du temps à résumer sa formation académique, ses diplômes, les titres du livre qu'il a écrit ou d'autres accomplissements semblables. Cela, souvent pour présenter en quoi la personne parle comme une autorité dans son domaine. Le milieu chrétien n'échappe pas nécessairement à cette habitude. Mais est-ce vraiment ce qui compte le plus? Ne faut-il pas plutôt comparer ce qui est dit et fait avec ce que Dieu demande dans sa parole? Cette comparaison, chers amis des ondes, est une manière un peu différente de souligner la différence principale entre les Béréens et plus ou moins tous les gens des villes précédentes où Paul avait pu annoncer l'Évangile. Dans le passage que nous venons de lire, Luc fait un contraste très net entre les résultats de la prédication de Paul à Thessalonique, les raisons évoquées par ceux qui s'opposaient à l'Évangile et la réception de sa prédication par les gens de Bérée. Comme notre texte du verset 11 le souligne, les gens de Bérée avaient de meilleurs sentiments que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. On peut en effet dire que le ministère européen de Paul était réellement turbulent. Nous avons déjà vu que son intervention sur la servante pour la délivrer d'un démon avait provoqué une émeute et son emprisonnement à Philippe. Il se reproduit la même chose à Thessalonique, la ville suivante où Paul s'arrête. Une fois de plus, donc, Paul n'a pu rester longtemps dans une ville. Luc nous dit que Paul n'a enseigné dans la synagogue de Thessalonique que pendant 3 semaines seulement. Si on rajoute encore quelques semaines de plus, où il a pu poursuivre son enseignement des chrétiens, cela ne fait qu'un mois ou deux, au grand maximum. Nous trouvons donc 2 idées principales dans ce passage. Au-delà de la persécution, l'accent de Luc est mis sur le fait que le message chrétien bouleverse le monde entier. Puis, il raconte cette petite pause plus paisible à Bérée pour contraster la réaction viscérale de ceux qui rejettent le message de l'Évangile et l'état d'esprit des gens de Bérée qui, au lieu d'agir et de réagir selon des idées préconçues, ont préféré tout vérifier selon la parole de Dieu. Chers amis à l'écoute, l'apôtre Paul poursuivit encore et toujours ce qu'on peut appeler sa stratégie d'implantation des églises. Ce qui est même souligné par le fait de passer à travers Amphipolis et Apollinie plutôt que d'y annoncer l'Évangile. Ce n'était pas parce que ces villes n'étaient pas importantes, mais nous trouvons la raison de ne pas s'y arrêter dans l'implantation de ce que Luc a écrit à la fin du verset 1er. Ils arrivèrent à Thessalonique, où les Juifs avaient une synagogue. Cela sous-entend assez clairement que Paul ne s'est pas arrêté dans les 2 villes précédentes, parce qu'il n'y avait pas de synagogue. Frères et sœurs et amis des ondes, cela vous a-t-il déjà frappé que Paul, appelé l'apôtre aux païens, passe en fait beaucoup de temps à annoncer l'évangile aux Juifs. Je prends quelques instants pour répéter la raison, puisque cela a aussi un lien important avec ce qui est arrivé à Bérée. Paul, très logiquement, a cherché à annoncer l'évangile en premier à ceux qui étaient les mieux placés pour le comprendre, ceux qui avaient déjà une connaissance assez approfondie d'une grande partie des informations nécessaires pour comprendre ce que Jésus a accompli. Comme Luc le souligne clairement au verset 2, Paul prêchait d'après les Écritures. Et si c'est dans les synagogues, cela ne voulait pas dire que le message était adressé uniquement aux Juifs, mais comme nous l'avons aussi vu et que nous voyons encore à Thessalonique et à Bérée, il y avait aussi beaucoup de craignants Dieu, entre parenthèses, des Juifs déjà attirés par Dieu et qui avaient commencé à apprendre ce qu'enseignait la Bible.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous soyons appelés enfants de Dieu.
Ressusciter. Dieu.
Logos Pod. Pour continuer notre réflexion sur le modèle des Bériens, il faut savoir, chers amis à l'écoute, que ce constat souligne encore, en plus de l'œuvre de Dieu par son esprit, pour quelles raisons l'Évangile pouvait se répandre aussi rapidement au premier siècle. Car le plus souvent, Paul ne faisait que compléter le message, bâtissant sur ce que les gens savaient de la parole de Dieu. Cela explique aussi, en partie, pourquoi nous mettons souvent pas mal de temps dans l'annonce de l'Évangile aujourd'hui. Car, malgré ce qu'ils pensent, la plupart des gens n'ont à peu près plus aucune connaissance du message divin. Après cette petite parenthèse sur la stratégie, revenons aux idées principales du passage. Nous devons remarquer que, partout dans les Actes, si les gens comprennent bien le message de l'Évangile, cela ne les laisse pas indifférents. Il y a ceux qui acceptent et qui croient en Christ, et puis il y a les autres qui, en grande partie, s'oppose plutôt à la vérité. Si les accusations du verset 7 sont fausses, même les ennemis de l'Évangile reconnaissent que les chrétiens ont bouleversé le monde de leur époque, et cela puisqu'ils vivaient de manière à montrer que Jésus était réellement leur maître. Frères et sœurs et amis des ondes, il est plutôt très rare de nos jours qu'il y ait une émeute suite à une prédication. L'opposition à l'Évangile est cependant présente, mais de manière moins visible. Mais il est également utile de nous poser la question si une des raisons pour notre relative tranquillité en tant que chrétien n'est pas due plutôt à quelque chose qui manque de notre côté. Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, Paul ne passait pas inaperçu car son message dérangeait. Et les chrétiens ne passaient pas inaperçus non plus car, au-delà du message, c'est le changement de vie provoqué par l'œuvre du Saint-Esprit qui dérangeait aussi leurs voisins, amis et collègues. Une des questions que je voudrais donc laisser avec chacun, c'est de considérer si la paix relative dans laquelle nous vivons est une grâce de Dieu, ce qui est bien le cas, mais s'il n'y a pas un autre côté où nous vivons trop paisiblement, justement parce que nous n'acceptons pas vraiment toutes les implications et les conséquences de l'Évangile dans nos vies. Quelqu'un a-t-il déjà dit de nous que nous bouleversons le monde entier? Il est vrai que dans une civilisation bâtie sur environ 2 millénaires de la foi chrétienne, il y a encore des valeurs en commun entre les chrétiens et les non-chrétiens. Mais je trouve encore important d'examiner notre façon de vivre, nos buts et nos objectifs, nos valeurs. Avons-nous trop adopté la perspective et la manière de vivre du monde au point où notre foi ne bouleverse plus personne? Un petit exemple, chers amis à l'écoute. Après le passage d'une chorale chrétienne l'été dernier, j'ai discuté avec 2 personnes de la chorale municipale où je chante. Et les 2, tout en ayant apprécié la musique, étaient assez dérangées par le message. Alors, elles m'ont demandé si je croyais vraiment les mêmes choses, y compris au sujet du péché. Elles étaient surprises quand j'ai répondu que oui, que c'était tout à fait cela, la véritable position chrétienne. Sommes-nous peut-être trop passifs pour ce qui concerne des prises de position qui découlent assez directement de ce que nous croyons? Avons-nous peur de bousculer, peur d'être ridiculisé, peur de perdre des amis, peur d'autre chose encore? C'est là que je trouve très intéressant le fait que Luc inclut aussi ce petit détour par Bérée. Si beaucoup de gens de cette ville semblent avoir accepté le message de l'Évangile, ce n'est pas parce que Paul s'est montré plus persuasif, ni qu'il avait appris à éviter les sujets plus polémiques, mais parce que les gens comparaient ce que disait Paul avec ce qui était écrit dans la parole de Dieu. Chers auditeurs et auditrices, on peut résumer le message de Paul assez facilement. Les prophètes de l'Ancien Testament avaient annoncé le Messie, mais ils précisaient aussi que ce Messie allait être rejeté par son peuple et mourir pour les péchés des hommes. Ce Messie crucifié devait également, en accord avec les prophètes, ressusciter d'entre les morts. Jésus est donc le Messie, ayant accompli toutes ses prophéties. Et il fallait donc que chacun fasse son choix, croire en Christ ou le rejeter. Le rejeter, c'était obtenir le pardon des péchés et l'assurance de la vie éternelle. Le rejeter signifiait l'attente du jour de Dieu, où il paraîtra pour juger le monde et punir ses ennemis. Mais au lieu de réagir selon leur propre conception de la vie, les gens de Bérée prenaient le temps de vérifier les détails donnés par Paul avec ce qui était écrit dans l'Ancien Testament. Et voyant que ces dires étaient conformes, beaucoup ont cru. C'est peut-être aussi pour cette raison même, d'ailleurs, que l'opposition qui a fini par arriver n'a pas été suscitée par les habitants de Bérée. Et il est probable qu'il y en avait qui n'ont pas cru. Mais comme ils voyaient que le message de Paul était conforme à la parole de Dieu, n'ont pas réagi comme les gens des autres villes. Soulignons, chers amis à l'écoute, ce que cela implique. Les Écritures qu'étudiaient les Bériens, c'était l'Ancien Testament. Et cela souligne donc que Jésus-Christ était assez clairement annoncé à travers l'Ancien Testament pour permettre à ces gens de confirmer les dires de Paul. Deuxièmement, cela souligne que la parole de Dieu est suffisamment compréhensible pour que tous ceux qui cherchent la vérité dans ces pages puissent la trouver, sans avoir besoin d'une autorité extérieure pour le leur expliquer. Logospod. Logospod.
Tel un artiste, Dieu crée l'univers. Il place les astres et dessine le ciel. Dispose la terre au-dessus des mers. Il est l'artiste. Il a fait le jour, créant le soleil. Lune et étoile président à la nuit. Louez le Seigneur, il nous émerveille. Seigneur, car il nous donne la vie. Son amour n'a pas de fin. Sa bonté est éternelle. Elle se renouvelle chaque matin.
Frères et sœurs et amis des ondes, aberrés, comme cela devrait aussi être le cas parmi tous les chrétiens, la confiance et la méfiance ont été interverties. Dans le monde autour d'eux, les gens se méfiaient du message de l'Évangile. Ils se méfiaient de l'autorité de la parole de Dieu et ils faisaient confiance plutôt à ce que disaient les hommes. La philosophie, la politique, leurs propres intérêts, etc. Les Bériens, par contre, avaient confiance dans la révélation de la parole de Dieu. Ils avaient aussi confiance dans leur capacité de la comprendre et de l'interpréter avec justesse. Et ils se méfiaient de ce que disaient les hommes, les traditions, la politique, leurs propres intérêts personnels. Ils se méfiaient au point d'examiner même ce que disaient ceux qui affirmaient parler pour Dieu, pour vérifier si ce que ces derniers disaient, comme Paul, était réellement conforme à la parole de Dieu. Et comme vous le savez tous, chers amis à l'écoute, j'espère, mon principal but n'est pas de vous déclarer la volonté de Dieu, mais d'enseigner la parole de telle manière que vous soyez, vous aussi, capable de la comprendre, la connaître, afin de vérifier tout ce qui est dit. Si vous ne le faites pas déjà, prenez la résolution de passer plus de temps dans la parole pour la lire, l'étudier, la connaître de mieux en mieux, pour vous montrer donc, comme les Bériens, de meilleurs sentiments que ceux qui continuent à agir selon l'opinion d'autrui ou sur les apparences ou selon le statu quo de ce monde. Pour conclure, amis à l'écoute, j'aimerais aussi souligner qu'il ne suffit pas de lire et connaître la parole, mais il faut aussi la vivre, la mettre en pratique dans notre vie. C'est ainsi que notre lumière brille, que d'autres voient ce que Dieu a fait en Christ, à travers ce qu'ils voient de lui dans nos vies, à nous. Si nous connaissons, si nous croyons, mais que rien de cela n'est visible, alors nous avons un problème assez grave, non pas avec la société, mais avec Dieu lui-même, car nous ne vivons pas ce que nous disons croire. Avons-nous la même perspective, la même disposition que les gens de Bérée, d'abord, pour nous soucier plus de ce qui est vrai que ce qui peut nous plaire, considérant moins l'approbation des hommes que l'approbation de Dieu? Deuxièmement, la parole de Dieu a-t-elle vraiment une place dans nos propres vies pour comparer et interpréter tout ce que nous voyons et entendons selon ce qu'elle nous révèle? Cela nécessite cette soif, cet engagement d'être dans la parole, suffisamment pour connaître son contenu. Puis, sommes-nous suffisamment prêts à entendre ce que la parole a à nous dire? Ou, comme la majorité des hommes, que ce soit au premier siècle ou encore aujourd'hui, qu'est-ce que nous acceptons comme autorité ultime pour nos choix et manières de vivre? Ce que disent les hommes ou ce que dit la parole? La parole de Dieu, chers amis à l'écoute, et l'Évangile sont réellement des épées à deux tranchants. D'un côté, la parole de Dieu nous offre la miséricorde, la grâce, le pardon des péchés et la vie éternelle à tous ceux qui mettent leur foi en Jésus-Christ. D'un autre côté, elle secoue, elle renverse les styles de vie, les valeurs, d'une manière aussi claire qu'elle menace les intérêts égoïstes de ceux qui ne veulent pas croire. Et cela exige de nous poser une question. Peut-on dire de nous, devrait-on dire aussi de nous aujourd'hui, la même chose que ce qui était dit de Paul et de son équipe? Ceux-ci, qui ont bouleversé le monde entier, sont aussi venus ici. Notre message et notre style de vie bouscule-t-il réellement le statu quo de la civilisation? Ou avons-nous oublié la puissance du message de l'Évangile pour nous transformer et pour révéler ce qui ne va pas dans ce monde, pour apporter la réponse de la grâce de Dieu par la foi en Christ? Je ne suis pas en train de dire que nous devons tout bouleverser, mais nous avons peut-être besoin de revoir nos priorités, remettant la parole à la place qu'elle devrait occuper dans nos vies, et acceptant de structurer notre vie, nos buts, nos aspirations, non pas selon ce que dit la société, mais ce que Dieu attend de nous, selon ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Que l'on puisse dire de nous aussi, chers amis à l'écoute, que nous avons le même état d'esprit que les gens de Bérée, et que nous aussi, nous avons bouleversé le monde entier. Qu'il en soit ainsi. Amen.
Malheureux, désespéré, dans un monde sans lumière, triste et découragé, tu traînes ta vie et ta misère.
Tu pensais que tu ferais mieux que les autres avant toi.
Toi, tu n'avais pas besoin de Dieu et tu te retrouves là.
Sans espoir, dans le noir, tu ne vois plus le bout de ton tunnel. Alors écoute la voix qui t'appelle.
toi celui que tu ne connais pas.
Il a dit:
venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous que la vie a chargé, venez et je vous donnerai la paix. Vous avez toujours cherché et sans jamais le trouver. Le repos pour vos âmes lassées. Car mon joug est facile et mon fardeau léger. Je veux vous conduire sur les chemins de la paix. Alors venez. Cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas, car je ne donne pas comme le monde peut donner. Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous que la vie a chargé.
Every day, anywhere, anytime, a digital gospel channel, Ebenezer International, your station. Chers amis à l'écoute, qui met fin à ce nouveau numéro de Logos Pod, programme qui vous a permis d'écouter la réflexion du jour intitulée « Le modèle des Béréens » autour d'un texte trouvé dans Actes des Apôtres, le chapitre 17, les versets 1 à 15. Ce message était une courtoisie du pasteur Henri Opéroal, de l'Église évangélique protestante de Lyon, Église qui fait partie de l'Alliance des Églises évangéliques interdépendantes, AEEI, et le réseau FEF. Avant de partir, je remercie le pasteur Henri Opéroal pour sa courtoisie, sa grande générosité, et nous caressons le désir de pouvoir un jour le rencontrer pour lui permettre de nous parler plus largement de ce ministère que le Seigneur lui a confié dans la région lyonnaise. Et pour vous qui n'habitez pas trop loin de cette assemblée, si vous souhaiteriez la visiter un jour, nous vous communiquons l'adresse. C'est bien 4 chemin Jean-Marie Vianney, Le Pérolier, 69130, Écully. Je répète, 4 chemin Jean-Marie Vianney, Le Pérolier, 69130, Écully. Avant de partir, je remercie également tous les artistes qui ont apporté leur contribution à ce programme, tels que Daniel Piala, John Fitterstone, Yves Baron, Danny et Moïse Biotrel. C'est bien à eux que nous devons également notre générique. Nous remercions aussi la société Sephora Musique de la Vie à qui nous devons cette version instrumentale que vous avez écoutée tout le long de ce programme. Et à vous tous, fidèles auditeurs et auditrices qui étaient branchés depuis le début de ce programme jusqu'à cette dernière minute, nous vous remercions de votre écoute et vous donnons rendez-vous pour la prochaine édition de Logospod. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur, Fondoristil, également pasteur pour la radio chrétienne Ebenezer International. Au revoir, Logospod.
Je n'ai ni argent ni or, ni richesse à te donner. Mais je connais un trésor que je voudrais partager. Plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant, le plus précieux, l'amour de Dieu que je connais un peu. Je l'ai cherché trop longtemps sur des chemins détournés pour oublier à présent tout ce qu'ils n'ont pas trouvé. Plus grand que l'infini de plus puissant que toutes les bombes de la terre, plus pur que le diamant, le plus précieux, l'amour de Dieu pour toi. Si tu veux, et rien au monde. Jamais te séparer de cet amour-là. Et rien au monde, rien au monde ne pourra jamais remplacer l'amour de Dieu pour toi. Plus grand que l'infini de l'univers, plus puissant que toutes les l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour toi, si tu veux.